Bonjour Alice.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, la chronique écologique. On parle beaucoup d'écologie, mais c'est un mot qui veut tout et rien dire. Il n'y a pas une écologie, mais des écologies. Il n'y a pas une doctrine, une idéologie, mais des pensées, des penseurs, et aussi des gens, des projets, qui ont inventé à chaque fois leur écologie. Dans cette chronique, je ferai une série de portraits, des portraits de philosophes qui ont chacun, à leur façon, tenté de définir ce qu'est l'écologie politique. Ils se sont heurtés à une double difficulté, définir à la fois l'écologie et à la fois la politique. Aujourd'hui, je vais faire le rapide portrait d'une pensée par laquelle je ne peux que commencer, tant elle est fondamentale pour comprendre ce qu'est l'écologie politique française, celle d'André Gortz. Et on commencera par écouter sa voix.
J'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et l'orientation écologiste. En France, les premiers ont été des gens qui ont fait la marche sur Fessenheim en 1969 ou 70. Mais... Bref, il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, c'est-à-dire la croissance asymptotique, mais que...
Oui, c'est un mythe qui s'effondre, c'est le mythe de la croissance, du progrès.
Pas seulement la croissance ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Dans ce qu'il y a d'écologistes scientifiques, personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Surtout étant donné les explosions démographiques qui sont en cours et qui ne peuvent pas être arrêtées dans les 20 ans qui viennent. C'est-à-dire que la population de la Terre continuera d'augmenter pendant encore au moins 20 ans avant de se stabiliser.
Certains pensent qu'on peut faire encore d'autres découvertes. On a bien découvert l'énergie atomique qui donne une énergie extraordinaire.
Toute énergie est polluante.
Ah.
Toute source d'énergie est polluante. Et même si vous passez au solaire, c'est-à-dire à la photoélectricité, pas seulement au capteur solaire, mais à la production d'électricité solaire, la production des installations nécessaires pour exploiter l'énergie solaire, la production de ces installations nécessairement est polluante. Donc on peut faire beaucoup pour économiser de l'énergie, pour remplacer les sources d'énergie fossiles ou minérales par des sources d'énergie en dernier état solaire. Mais ce qui s'impose à nous, c'est une régression globale de la consommation matérielle. Vous pouvez obtenir une politique cohérente de préservation de l'environnement sous forme d'éco-dictature ou de ce que Illich appelait technofascisme, c'est-à-dire sous forme de mainmise de l'appareil technicien sur l'ensemble des conditions et modes de vie d'une société. C'est une utopie, donc cette utopie éco-dictatoriale a été développée dans des livres de science-fiction. Et c'est une forme parmi d'autres de barbarie.
Dans l'article intitulé « L'écologie politique, entre expertocratie et auto-limitation », Gortz définit l'écologie politique en l'opposant à une écologie scientifique. Selon lui, l'approche scientifique de l'écologie représente le danger d'une expertocratie, c'est-à-dire le pouvoir d'un groupe d'experts sur les autres. Ce type d'écologie se traduit en effet par une extension du pouvoir technique et bureaucratique, ce que Gortz nomme l'hétéronomie, c'est-à-dire l'absence d'autonomie. En effet, les mesures sont décidées d'après des nécessités scientifiques que l'État devra imposer aux décideurs économiques et aux consommateurs individuels, donc avec des interdictions, des taxations, des subventions, des pénalités. Or, selon Gortz, je cite, « L'ambiguïté de l'impératif écologique vient de là. À partir du moment où il est pris à leur compte par les appareils de pouvoir, il sert à renforcer leur domination sur la vie quotidienne et le milieu social, et entre en conflit avec les aspirations originaires du mouvement écologique lui-même, en tant que mouvement politico-culturel. » Donc, on voit en fait que l'écologie de Gortz se rapproche des aspirations originaires du mouvement écologique, celle d'une défense de la vie quotidienne, considérée comme un lieu d'autonomie fondamentalement politique. Mais alors pourquoi parler d'écologie lorsqu'on s'intéresse à la vie quotidienne et non pas à l'environnement? C'est ce que Gortz s'efforce d'expliquer dans un entretien nommé « L'écologie politique, une éthique de la libération » et publié dans l'ouvrage que je vous conseille, « Ecologica ». Selon lui, je cite, « En partant de la critique du capitalisme, on arrive immanquablement à l'écologie politique, qui, avec son indispensable théorie critique des besoins, conduit en retour à approfondir et à radicaliser encore la critique du capitalisme. Je ne dirais donc pas qu'il y a une morale de l'écologie, mais plutôt que l'exigence éthique d'émancipation du sujet implique la critique théorique et pratique du capitalisme, de laquelle l'écologie politique est une dimension essentielle. Si tu pars, en revanche, de l'impératif écologique, tu peux aussi bien arriver à un anticapitalisme radical qu'à un pétinisme vert, à un écofascisme ou à un communautarisme naturaliste. L'écologie n'a toute sa charge critique et éthique que si les dévastations de la Terre, la destruction des bases naturelles de la vie, sont comprises comme les conséquences d'un mode de production, et que ce mode de production exige la maximisation des rendements et recourt à des techniques qui violent les équilibres biologiques.
André Gortz, vous êtes quand même le père de l'écologie. Alors, l'écologie dans les années 90, en l'an 2000, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera un retour à la nature naturelle, un peu comme celle que décrit Bernardin de Saint-Pierre dans Paul et Virginie? Ou est-ce que ce sera, au contraire, un autre développement d'autres techniques qui permettront de dépolluer? Regardez, en ce moment, commence à se développer le business de l'écologie, l'éco-business.
Oui, vous avez un éco-business qui peut fonctionner comme les industries d'armement. C'est-à-dire que une partie de l'industrie trouve son profit et son développement à faire des choses qui ne sont pas des marchandises qu'on peut vendre aux gens, mais le contraire des marchandises, exactement comme les armements, qui ne servent à rien et qui pourtant rapportent du profit parce qu'ils sont financés par l'État.
Oui, mais alors ça, ce serait peut-être un profit qui ne serait pas condamnable si c'est un profit pour un but louable.
Oui, je vois très bien. Une approche écologique n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni le retour à la nature, ni le fait de surajouter un supplément de technologie, un supplément de production industrielle à celle qui existe déjà pour en neutraliser les effets nuisibles. L'approche écologiste ou éco-sociale consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Et la réponse à cette question, c'est que la logique économique qui se déploie dans sa pureté dans l'économie capitaliste, dans l'économie marchande, la logique économique veut que l'on réussisse toujours à rentabiliser un maximum de capitaux de façon maximale. C'est-à-dire qu'il faut trouver à investir avec profit le profit tiré des capitaux déjà investis. Donc il faut élargir les débouchés, élargir le marché pour des productions croissantes.
Et ça, c'est une démarche perverse.
Et cette démarche conduit à accroître la consommation individuelle. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être ou d'accroissement de
oui, vous avez dit
du bonheur.
Vous avez dit quelque part que ça revient à transformer une montagne de Kaamelott en montagne de détritus.
Oui, nous faisons ça très systématiquement. C'est-à-dire que nous ne cessons de transformer de la production en déchets.
Ah oui, on est les rois du gaspillage.
Voilà. Alors, je disais, le lien entre plus et mieux est rompu. Et si vous voulez tenir compte de cette rupture et permettre une qualité de vie meilleure, il vous faut changer, pas seulement de technique, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il vous faut réorienter le système économique de façon à maximiser la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité intrinsèque, au lieu de chercher à maximiser leur valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça rapporte à chaque entreprise ou à la croissance économique en général. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir non pas plus et moins bien, mais moins mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir cela sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui passe simplement de vous occuper de la préservation de l'environnement. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands.
En fait, pour Gortz, le fondement de l'écologie est donc la critique du capitalisme, suscitée quant à elle par une exigence éthique. Au sein du capitalisme et de l'industrialisme, c'est la liberté du sujet ainsi que son existence politique qui sont bafouées. Rien n'est à échelle humaine, tout est pensé selon des exigences techniques, économiques, systémiques. En tentant de saisir les impacts de la modernité sur la vie quotidienne, Gortz observe un mouvement de destruction des possibilités d'autonomie au profit d'une extension des rapports hétéronomes. Ainsi, Gortz observe une désappropriation progressive de notre quotidien, ce qu'il nomme, lui, un monde vécu. Nous n'avons plus le pouvoir de décider ni de comprendre, car nous sommes de moins en moins partie prenante de ce qui constitue notre vie. Par exemple, le lien entre production et consommation est de plus en plus distendu, contribuant à un aveuglement généralisé sur les conditions de production. C'est pourquoi Gortz appelle à une relocalisation de la production et de la prise de décision, à une relative autogestion économique, ainsi qu'une démocratie plus directe, plus locale. C'est dans cette prise en compte du quotidien que constitue, selon Gortz, la véritable origine du mouvement écologique. Il est originellement une protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien par les appareils de pouvoir économique et administratif. Par « culture du quotidien », Gortz entend l'ensemble des savoirs intuitifs, des habitudes, des normes et des conduites allant de soi, grâce auxquelles les individus peuvent interpréter, comprendre, assumer leur insertion dans le monde qui les entoure. Ainsi, Gortz avance que « la nature dont le mouvement exige la protection n'est pas la nature des naturalistes ni celle de l'écologie scientifique ». C'est fondamentalement le milieu qui paraît naturel, parce que ses structures et son fonctionnement sont accessibles à une compréhension intuitive, parce qu'il correspond aux besoins d'épanouissement des facultés sensorielles et motrices, parce que sa conformation familière permet aux individus de s'y orienter, d'interagir, de communiquer spontanément, en vertu d'aptitudes qui n'ont jamais eu à être enseignées formellement. Fin de citation. Donc cette culture du quotidien est le fondement, selon lui, d'une autonomie, d'un pouvoir de décision et d'action, et la menace qui pèse sur son épanouissement est, aux yeux de Gortz, au fondement du mouvement écologique. Ainsi, lorsqu'on parle de politique, on parle aussi d'une pensée d'ensemble de la société. On peut le voir à travers Gortz. Et donc, par différence avec une écologie qui se contenterait d'exiger un certain nombre de mesures environnementales, sans appeler à une modification radicale de la société, l'écologie politique porte avec elle une véritable vision. Elle véhicule un projet de transformation de la société. Tout particulièrement, elle porte avec elle une critique du modèle économique et social et pose que le capitalisme n'est pas le seul modèle possible. Nous verrons que, chez la plupart des philosophes de l'écologie politique, la critique du capitalisme est avant tout celle de l'industrialisme et porte en germe le mouvement de la décroissance du point de vue économique et de la démocratie directe du point de vue social et politique. Et donc ça, bien sûr, on le verra dans les futures rubriques. Pour Gortz, je vais prendre juste quelques minutes pour esquisser un petit peu sa vision d'une société différente. Pour Gortz, il s'agit de parvenir à une société du temps libéré. Donc au lieu de se cristalliser sur une idéologie du travail, il s'agit au contraire de produire autrement et moins. Et pour cela, il propose un revenu d'existence, donc c'est quelque chose dont on a pu entendre un petit peu parler ces derniers temps, un revenu d'existence qui serait permis grâce à une redistribution des richesses. Ce revenu permettrait à chacun de ne travailler qu'un nombre minimum par année et de consacrer le reste de son temps aux activités qu'il souhaite. L'accroissement du temps libre est, aux yeux de Gortz, la condition d'un épanouissement du monde vécu, en même temps que le seul moyen de substituer une part croissante de la société aux valeurs économiques. Et je vais lire un dernier extrait de Gortz, donc cet extrait vient de Métamorphose du travail, et dans lequel il fait l'ébauche de son projet d'une société du temps libéré. À mesure que s'étendent les plages de temps disponibles, le temps de non-travail peut cesser d'être l'opposé du temps de travail. Il peut cesser d'être temps de repos, de détente, de récupération, temps d'activités accessoires, complémentaires de la vie de travail. Paresse, qui n'est que l'envers de l'astreinte au travail forcé, hétéro-déterminé. Divertissement, qui est l'envers du travail anesthésiant et épuisant par sa monotonie. À mesure que s'étend le temps disponible, la possibilité et le besoin se développent de le structurer par d'autres activités et d'autres rapports, dans lesquels les individus développent leurs facultés autrement, acquièrent d'autres capacités, conduisent une autre vie. Le lieu de travail et l'emploi peuvent alors cesser d'être les seuls espaces de socialisation et les seules sources d'identité sociale. Le domaine du hors-travail peut cesser d'être le domaine du privé et de la consommation. De nouveaux rapports de coopération, de communication, d'échange peuvent être tissés dans le temps disponible et ouvrir un nouvel espace sociétal et culturel, fait d'activités autonomes aux fins librement choisies. Un nouveau rapport, inversé, entre temps de travail et temps disponible tend alors à s'établir. Les activités autonomes peuvent devenir prépondérantes par rapport à la vie de travail, la sphère de la liberté par rapport à celle de la nécessité. Le temps de la vie n'a plus à être géré en fonction du temps de travail. C'est le travail qui doit trouver sa place subordonnée dans un projet de vie.
Merci Alice pour cette chronique. Avant de conclure, j'aimerais bien te poser une petite question, puisque comme tu le sais, on a été un peu bousculé sur les ondes de Canal Sud et dans d'autres médias par ce qui s'est passé au Testé. On a notre premier mort écologiste depuis Vital Michalon en 77, sur une sociale écologiste, et sur des lieux où s'expérimente une alternative, et qui me semble pas très très loin de ce que dit Gorce. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce mouvement ZAD là qui émerge, et par rapport à la pensée que tu viens de décrire?
Eh bien écoute, c'est vrai que Gorce, surtout à la fin de sa vie, regardait avec beaucoup d'enthousiasme tous les mouvements qui pouvaient émerger de luttes sociales, mais toujours très ancrées en fait, dans un lieu, dans une prise d'autonomie. Et donc effectivement, la ZAD, lui, il n'est plus là pour en parler aujourd'hui, mais ça serait un mouvement qui correspondrait totalement à ce à quoi il appelle, c'est-à-dire d'autres formes de vie. Et à travers d'autres formes de vie, d'autres formes de pensée. Parce que c'est ce qui se passe à la ZAD, c'est vraiment de l'invention, de l'expérimentation. Et alors certes, avec aussi une part de danger, mais bon, ça c'est encore... je pense que la question de la lutte et du combat, c'est quelque chose qu'il a pas, lui, il abordait pas. Il s'intéressait surtout vraiment à la façon de vivre et en quoi est-ce que vivre autrement peut permettre de changer beaucoup plus radicalement la société que de simplement regarder les choses d'un regard critique. Il appelait vraiment à une action plutôt qu'à une réflexion.
Mais peut-être qu'aussi, une des limites de sa pensée, j'ai l'impression, c'est qu'il n'envisageait pas que, en fait, mettre en place cette autre société passerait aussi par des luttes et par une résistance du système en face, quoi. Même s'il avait des notions marxistes, j'ai l'impression qu'il a peut-être un petit peu mis de côté ce point qui a été traité par d'autres, hein, mais...
Tout à fait. C'est vrai qu'il n'aborde pas la question de la confrontation qui va émerger de ces nouvelles formes de vie. Lui, il est à une époque où il voit surtout que c'est des portes qui s'ouvrent, mais qui ne sont pas encore vraiment concrétisées. Et c'est plutôt notre génération qui voit les conséquences de ces expérimentations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore pensé.
Un dernier extrait peut-être à nous présenter pour conclure cette chronique. Donc ça s'appelle « Le monde des experts ». Et donc c'est toujours tiré de ce recueil de textes et d'interviews d'André Gors, qu'on peut trouver, j'imagine, chez son libraire indépendant préféré. Merci.
Mais on ne peut plus penser avec les mêmes modèles mentaux qu'autrefois. Il faut inventer quelque chose d'autre.
Il faut surtout vous donner d'autres critères de jugement.
Il faut penser autrement aussi, André Gors, du fait qu'on ne peut plus penser la réalité d'une manière totalisante. La connaissance est devenue atomisée.
Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle la fin de la théorie.
C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus de philosophes.
C'est pour ça qu'il y a toujours des philosophes, mais il n'y a plus de philosophie totalisante. C'est qu'il n'y a plus de grand système philosophique qui puisse tout embrasser. Le dernier, peut-être, qui est un substitut de système philosophique totalisant, c'est le systémisme. Dans, je crois, le représentant le plus cohérent et le plus noble en France, c'était Edgar Morin, qui est arrivé à écrire aussi bien une théorie de la nature, une théorie de la vie, que des livres comme « Pour sortir du XXe siècle » ou « La nature du régime soviétique » ou « Penser l'Europe ». Morin est un des systémistes les plus intéressants qui ont été produits par ce filon de pensée. Nous vivons chacun des dimensions de la réalité de notre monde. Nous les vivons en morceaux détachés et nous sommes nous-mêmes décomposé par cette façon de vivre une réalité que nous pouvons appréhender qu'en morceaux détachés. Nous sommes tous schizophrènes, c'est-à-dire que nous passons d'un plan à un autre et nous ne voyons pas la cohérence de ce passage. C'est ça la désorientation profonde de notre civilisation et c'est ça la raison de la décomposition d'une culture du quotidien. Toute forme de cohésion sociale, de cohésion d'une civilisation suppose une culture du quotidien, c'est-à-dire un ensemble de vécu et de pensées qui vous permettent de vous sentir chez vous dans ce monde et d'avoir l'impression qu'il y a un certain nombre de certitudes, de normes, de valeurs, etc. qui vont de soi. Ben, ce n'est plus notre cas.
Plus rien ne va de soi.
Plus rien ne va de soi, comme disait Gérard Mandel. Et en plus, toutes les formes de connaissances, d'appréhension des morceaux épars, des pièces détachées de notre civilisation, sont technicisées. C'est-à-dire sont devenues opaques, imperméables, inintelligibles pour le commun des mortels et appartiennent à des experts. Ce qui fait que vous avez des experts pour tout et n'importe quoi qui continuent à vous déposséder du peu de certitude que vous pouviez, à la rigueur, dégager de votre expérience vécue en vous disant « mais... ce n'est pas du tout comme vous pensez, ce n'est pas comme ça qu'il faut... Moi, je suis le spécialiste qui sait comment vous devez élever vos enfants, moi, je suis le spécialiste qui sait comment vous devez soigner votre corps, je suis le spécialiste de votre alimentation, ne vous fiez jamais à votre intuition, ne vous fiez jamais à votre goût, faites confiance aux experts, allez les consulter et payez. » Alors, nous avons le développement de cette dépossession de chacun de son vécu, de son rapport intuitif au monde, par des gens qui vous donnent des certitudes contre-intuitives, comme on les appelle maintenant, et qui vous rendent de plus en plus incapables à vous prendre en charge vous-même.
Oui, mais et qui ne sont pas sécurisants pour autant, parce qu'ils n'empêchent pas des accidents qui peuvent surgir localement et qui désemparent les États et les gouvernements.
Prenez tout le côté iatrogène, c'est-à-dire provocateur de maladies, des hôpitaux. Il n'y a pas d'endroit où il y a autant de contamination et de risques de maladies que dans les hôpitaux. On vous soigne pour une chose et vous tombez malade pour une autre. Il y a maintenant, heureusement, des statistiques en France qui montrent, je crois, que un quart des malades hospitalisés attrapent à l'hôpital des maladies qu'ils n'avaient pas en y entrant. Bon. Le fait d'être dépossédé de votre capacité de vous prendre en charge vous-même ne vous sécurise pas, mais vous livre à des appareils, comme les appelle Alain Touraine très justement, à des appareils de santé, des appareils de production, des appareils commerciaux, des appareils de service, qui vous persuadent de votre incompétence en toute chose et contribuent à votre anxiété.
Mais est-ce qu'il faut freiner ce progrès technique, technologique qui avance plus vite que nous ? Et qu'essaient justement de penser les écologistes.
La question n'est pas tant de le freiner que de l'orienter. C'est-à-dire de l'orienter dans des voies qui soient. Qui augmentent l'autonomie de la personne et de la société vis-à-vis des contraintes que l'on appelle aujourd'hui économiques ou techniques. Il y a des tendances dans ce sens de réduction de la dimension de ce que j'appelle la méga-machine, c'est-à-dire démonter la méga-machine et passer à des technologies, à des techniques, à des modes de production qui soient contrôlables par les producteurs et aussi par les usagers. Tant que les producteurs et les usagers ne peuvent pas avoir le contrôle des produits que l'on lance, ils n'ont pas le choix de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils consomment.
Donc il faudrait contrôler les experts ?
Non, c'est pas exactement de contrôler les experts. C'est de déplacer l'expertise et de susciter des débats, d'abord entre experts, car ils ne sont jamais d'accord entre eux, et entre experts et le public. C'est-à-dire d'avoir des lieux de confrontation où puissent se débattre publiquement les choix que les uns proposent et les critères de choix que les autres éprouvent.
Le musée des horreurs. Gîte au fond de mon cœur, malheur. Sous la gaze dorée de fée, la bataille fait rage, carnage. Le musée des horreurs est un palais maudit où s'accouple la fleur carnivore et la truie. Des glaciers cramoisis fumants glissent au fond des puits géants. Offrent leur vie sanglant avant. Le musée des horreurs est un palais maudit où s'accouple la fleur carnivore et la truie. Des cercueils déterrés parois griffées dedans. De grosses cendrillons chevelus et ventre des bouffons bossus. Le musée des horreurs est un palais maudit où s'accouple la fleur carnivore et la truie. Des rocs et des charnés bavants écorchent des bébés vivants. Des démons ravissants sans bruit enculent des mourants, je crie.
C'était la chronique écologique quinzomadaire de Canal Sud, toute nouvelle chronique par Alice. Les extraits sonores ont donc été tirés d'un DVD hommage à André Gorz, recueil de ses textes et d'une interview réalisée avec la journaliste Marie-France Hazard. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle chronique, on parlera cette fois de Arnès.